France Inter, le rendez-vous de la médiatrice, Emmanuelle Davier.
Ce matin, nous sommes en compagnie de la directrice de l'information de France Inter, Catherine Nel, bonjour.
Bonjour Emmanuelle.
Avec vous, nous allons revenir sur les sujets qui ont fait réagir les auditeurs tout au long du mois d'octobre. Le traitement éditorial de l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, la couverture journalistique du Voile, Jean-Marie Le Pen et le Rassemblement National sur l'antenne. Mais avant cela, au menu de cette émission, Nicolas Demorand et son amour de la langue française. Nicolas Demorand et ses infidélités ou ses entorses à la langue française. Et enfin, Nicolas Demorand et son lien si particulier avec vous, auditeurs.
80 secondes ce matin sur le mail courtois, souriant, impitoyable que m'a envoyé Vincent de Bourg-en-Bresse. Et vous, est-ce que vous l'avez comprise? Est-ce que vous partagez ce point de vue? Qu'est-ce qui va changer pour les chômeurs à cette date? Qu'est-ce que vous lui répondez?
Vous, vous ressentez quoi?
C'est en toute discrétion qu'il pose son hélico sur le toit de Radio France et qu'il arrive tel un super-héros. Vous voyez de qui je veux parler, vous entendez son petit sourire et son petit rire carnassier derrière le micro. Il s'agit de Nicolas. Eh oui, de Morand, qui à 8h20 recevra Jean-Michel Blanquer pour parler quinoa et chimpanzé. C'est vrai qu'il a une présence et un charisme quasi christique. À 8h20, aux côtés de l'homme le plus corrompu du service public.
J'en ai marre, là.
Je comprends. Recevra Jean-Louis Bourlange pour parler caviar et moustache.
Bonjour Nicolas Demorand.
Bonjour Emmanuel Davier.
Prêt à répondre aux questions des auditeurs?
Avec grand plaisir.
Eh ben on y va. Combien de temps Nicolas Demorand va-t-il accepter ces passages d'antenne qui le desservent pour le sérieux des informations qu'il a ensuite à présenter, demande Michel. Nicolas Demorand, est-ce que vous pensez que l'esprit frondeur et les blagues potages de Daniel Morin desservent le sérieux de votre propos?
Non, je pense pas parce que on rigole, on fait pas semblant de rigoler, d'autant que Daniel Morin a une nouvelle cible qui est Léa Salamé, et donc on se répartit la charge, elle et moi, et on voit bien que c'est un franc moment de rire, parfois de hurlement de rire. Ensuite, dès qu'il est 7h, on change totalement d'atmosphère. Il n'y a rien de fin dans la manière qu'on a de réagir à ça. Et on a la voix aussi comme outil de travail pour marquer les deux atmosphères, deux salles, deux ambiances.
Parfait. Donc Nicolas Demorand valide les blagues de Daniel Morin.
J'ai pas dit que je les validais, j'ai dit que j'en rigolais.
Voilà, ça ne vous lasse pas pour l'instant.
Non, absolument pas.
Mais moi je pense que les auditeurs attendent ça, Nicolas, en fait, ce passage de témoin.
Oui, c'est possible, oui, c'est vrai.
Nicolas Demorand, les auditeurs se demandent également si vous êtes plutôt coupe claire ou coupe sombre, Bourg-en-Bresse ou Bourg-en-Bresse. Alors, pour ceux qui auraient raté cet épisode, le 11 octobre dernier, vous avez consacré votre chronique de 80 secondes à l'expression coupe claire à la suite d'un mail envoyé par un auditeur de Bourg-en-Bresse. Vous faites un 80 secondes et les gens disputent au sens noble du terme. Et ça a donné lieu à une effervescence incroyable, joyeuse, même enthousiasmante, entre vous et les auditeurs. Alors, revenons un peu sur cette séquence. Qu'est-ce qu'elle vous inspire en termes de réflexion sur le média radio?
J'ai un certain nombre d'auditeurs avec lesquels j'ai des échanges réguliers sur tel ou tel point, de fond ou de forme. Là, c'était un auditeur qui m'interpellait sur un défaut de prononciation, un problème phonétique, racisme, lyrisme, au lieu de dire racisme, lyrisme. Et il notait que j'avais fait des progrès sur Israël, que je disais enfin israélien, et faisait une liste pour le reste d'un certain nombre de problèmes qu'il fallait que je règle urgemment. Et donc je l'ai remercié, je l'ai cité, j'ai dit merci à cet auditeur qui vit donc Bourg-en-Bresse, et donc j'étais en train de m'excuser pour des erreurs et j'en ai donc
commis
instantanément. C'est Dorothée Barba qui m'a dit non, on prononce pas ça comme ça, et puis de fil en aiguille, tout au long de la journée, il y a eu des prononciations différentes, des analyses, etc. Bon, donc il m'a fallu y revenir, et comme on n'arrivait pas à trancher la querelle, on a demandé à Alain Rey de le faire pour nous, et on dit donc Bourg-en-Bresse.
Absolument.
Voilà. Mais c'était une mortification pour moi de faire cette faute.
Ce lien avec les auditeurs comment et pourquoi est-il nécessaire de le stimuler, puisque c'est l'une des choses chaleureuses, intenses et positives de cette relation si particulière que vous avez avec eux?
C'est très étonnant, en fait, de voir le nombre de réactions qu'il y a eu à cette petite chronique. Très étonnant parce que on peut savoir par de nombreux biais qu'on a un certain nombre de terrains d'entente ou de désentente avec les auditeurs. En tout cas, qu'il y a une relation forte et nourrie. J'avais totalement sous-estimé la question de la langue française, qui est notre outil de travail de ce côté du micro. Et ai-je découvert qu'il y a aussi un objet de passion, d'amour, de rigolade et de respect de la part des auditeurs. Et c'est très intéressant d'échanger avec eux parce qu'on essaye de parler un français audible et compréhensible. On essaye de parler... On n'y arrive pas, hein, tous les jours. Un français correct, et on s'aperçoit qu'on a des auditeurs qui nous écoutent de très très près et nous disent quand on fait une faute.
Alors précisément, c'est d'ailleurs la spécificité, enfin l'une des spécificités de la radio, c'est le discours radiophonique qui est à la fois écrit et oral.
Il est hybride.
Et absolument, il a un statut hybride, voire une ambiguïté qui fait dire aux auditeurs que la rigueur grammaticale ou bien les canons de la langue française ne sont pas toujours respectés, ce qui ne manque pas de les désoler. Et comment vous expliquez cette distorsion entre le respect attendu de la langue française et les marques de familiarité, presque d'oralité propre à une conversation que l'on peut entendre notamment dans la matinale et que parfois ils reprochent?
Le statut hybride, c'est que la radio est dans un premier temps, et dans un premier temps seulement, une écriture. Il y a une écriture radio, c'est une écriture un peu particulière qui est oralisée, qui n'est pas exactement la langue écrite au sens pur et parfait du terme. Ensuite, ça change de nature, c'est-à-dire que quand vous êtes en direct, dans un studio, on quitte l'écrit pour aller vers des formes d'oralité qui doivent être plus ou moins maîtrisées, mais on ne peut pas toujours le faire. Ensuite, il y a des questions de registre. Une question posée rigoureusement par écrit sonnera très différemment à l'oral. Juste un exemple. Et alors là, vous lui dites quoi ? Ce qui est une monstruosité sur le plan grammatical. Mais si vous dites « et là, que lui dites-vous » le sens est un tout petit peu changé. L'emploi des temps aussi change, le passé composé généralisé à la place du passé simple. C'est une facilité, bien sûr, c'est une marque d'oralité aussi, parce que la radio, c'est de la conversation, donc c'est de la vie. Mais si vous employez systématiquement le passé simple, vous allez mettre des connotations de langue soutenue, de langue ironique, qui disparaissent avec le passé composé. Donc, si vous voulez, on est toujours en train de faire des arbitrages entre ce qui doit être un français correct, disons, mais dans une forme étrange qui est oralo-écrite ou l'inverse. C'est très bizarre. Voilà, on essaye de faire des arbitrages, mais en tout cas, quand on travaille, quand on écrit, là, je pense tous les matins à ce qu'on fait avec Léa Salamé, on pèse chacun des mots. Il y a des mots sur lesquels on passe 5-10 minutes pour savoir si c'est le bon mot, la bonne connotation, s'il n'y en a pas un autre, si c'est exactement ce qu'on veut dire et de quelle manière. Est-ce que le mot ouvre la question ou la ferme, est-ce qu'il a des implicites ou non? Bon, ensuite vous retrouvez à l'antenne dans le feu du débat ou de l'interview, tout ce patient travail disparaît en direct parce que c'est pas le moment, c'est pas la même forme
et puis il y a le direct.
Voilà, il y a le direct.
Et par rapport à cette précision requise souvent par les auditeurs, on peut aussi leur expliquer que ça peut virer à la préciosité.
Oui, bien sûr. À aucun moment vous n'avez été au courant. À aucun moment vous ne fut au courant. On voit bien que la phrase elle n'a pas deux sens, mais elle a des connotations différentes. Dans un cas, elle est plate, factuelle, informative. Et dans l'autre, il y a une petite préciosité qui n'était pas précieuse, mettons, il y a 40 ans, qui était juste correcte. Mais cette préciosité-là, elle amène un élément dans la question ou dans l'échange qui est un élément en plus. Voilà, oui, il y a une connotation.
Et précisant également que la matinale est écoutée par différentes catégories socio-professionnelles. Vous vous adressez aussi bien au cadre moyen qu'à l'agriculteur, au médecin, à l'enseignant, au ministre, aux étudiants. Est-ce que c'est un exercice difficile que d'être compris par le plus grand nombre?
Non, c'est le postulat. si vous voulez, c'est éviter la cuistrerie, éviter la préciosité. Ça ne veut pas dire simplifier ou être dans le simplisme, c'est simplement pouvoir être compris. Donc oui, ce sont des arbitrages, à certains moments on a envie de faire des citations, mais qui pourraient paraître insupportables à l'antenne, donc il faut faire attention aux mots rares qu'on emploie et les employer à bon escient.
Ces invités, vous les recevez avec Léa Salamé. Mmh. Vous formez un duo heureux ?
Oui, très. Je pense que ça s'entend. La radio, c'est un exercice de vérité. Il est très difficile de mentir à la radio et d'essayer de faire croire que des gens qui ne peuvent pas s'encadrer s'adorent. Ça ne marche pas. C'est un média de vérité. Et pour la qualité d'une information, ça s'entend. Pour une faute, une erreur factuelle, ça s'entend. Pour le plaisir qu'on peut avoir à travailler ensemble, ça s'entend aussi. Et en tout cas, là encore, de mon côté du micro, oui, c'est un bonheur. Tout simplement, c'est un bonheur.
France Inter, le rendez-vous de la médiatrice, Emmanuelle Davier.
Catherine Nel, vous êtes la directrice de l'information de France Inter. Avec Nicolas Demorand, Léa Salamé ou encore Ali Badou, vous arbitrez les invitations faites aux personnalités politiques. Et justement, on y vient.
Jean-Marie Le Pen, est-ce que vous avez des choses à vous faire pardonner, quoi ?
Non, j'ai une vie assez droite. Je ne crois pas, mais j'ai jamais conduit comme un salaud.
Lorsque vous avez des cages d'escalier où les Français sont minoritaires, des quartiers entiers où les Français sont minoritaires, des villes et même des départements entiers où ils sont minoritaires, poser la question est légitime.
Il y a des départements en France où les Français sont minoritaires.
Bah, je pense qu'en Seine-Saint-Denis, je suis pas sûr que les Français soient encore majoritaires. Oui, par exemple.
Qu'est-ce que vous appelez français? Qu'est-ce que vous appelez les Français?
Qu'est-ce que vous appelez les Français?
Bah, les Français, c'est-à-dire des personnes qui sont là depuis très longtemps.
De nombreux auditeurs se sont interrogés sur l'opportunité d'inviter Jean-Marie Le Pen dans la matinale de France Inter. C'était il y a quelques semaines et le sujet continue à faire réagir. Je vous lis le message envoyé cette semaine par Michel, une auditrice. « Je suis de plus en plus irritée par le choix d'ouvrir vos ondes au Rassemblement National. Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen et leur jeune loup Sébastien Chenu et Nicolas Bay. Pourquoi ? Par souci de démocratie, me direz-vous, de pluralisme, d'équité, mais à quoi bon ? Pourquoi faire au Rassemblement National l'honneur de vos studios si chaleureux ? Alors ce point de vue, Catherine Nel, n'est pas isolé. Que répondez-vous à l'irritation des auditeurs au sujet de la présence au micro de France Inter de membres de la famille Le Pen ou bien de représentants du Rassemblement National ?
Emmanuel, je réponds simplement que nous ne pouvons pas, sur une radio de service public, exclure délibérément de notre antenne un courant de pensée. Nous ne pouvons pas faire comme si un tiers ou presque un tiers des Français n'avaient pas voté pour les idées du Rassemblement National aux élections présidentielles. Simplement, nous faisons notre travail. Ça n'est pas une tribune, quel que soit d'ailleurs l'invité, et Nicolas tout à l'heure en parlait, ça n'est pas une tribune. Donc nous faisons notre travail, nous questionnons, nous fact-checkons, nous argumentons, mais effectivement c'est notre rôle d'accueillir différents courants de pensée.
C'est une cavale de plus de 8 ans qui a pris fin aujourd'hui. Xavier Dupont de Ligonnès a été arrêté en Écosse. Cet homme, jusqu'ici introuvable, est soupçonné d'avoir tué sa femme et ses 4 enfants à Nantes, début avril 2011.
Xavier Dupont de Ligonnès, arrêté en Écosse ? Point d'interrogation. Est-ce bien l'homme recherché depuis 8 ans ?
Être ou ne pas être Xavier Dupont de Ligonnès, la question ne se pose plus ce midi, après toute une soirée et une matinée d'interrogation. L'homme arrêté à Glasgow, dont on disait que les empreintes digitales correspondait à celle du père de famille nantais. En fuite depuis 8 ans, on n'a finalement rien à voir avec lui. Les tests ADN ont parlé.
Autre sujet de crispation ce mois-ci, la couverture éditoriale de l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès et du Français arrêté à l'aéroport de Glasgow. J'ai reçu énormément de messages exprimant la colère et l'indignation. En voici un parmi d'autres. Cette affaire illustre le manque d'éthique et de professionnalisme. Aucun emploi du conditionnel, aucune mise en garde alors que rien ne confirmait que c'était bien Xavier Dupont de Ligonnès qui avait été arrêté. Un mea culpa s'impose. Alors 2 jours plus tard, Catherine Nel, vous avez publié un communiqué pour les auditeurs dans lequel vous revenez sur le traitement journalistique de cette affaire. Quels enseignements avez-vous tirés de cette séquence ?
Je dirais que il sera peut-être difficile de promettre à nos auditeurs que jamais, plus jamais, nous ne reproduirons une erreur de ce type. Pourquoi ? Parce que il ne s'agit pas d'une fake news au sens manipulation du terme. Il s'agit, et là on peut revenir sur la façon dont les journalistes travaillent et procèdent, les journalistes ont des sources qui leur permettent à un moment donné de revenir justement à la source, c'est pour ça qu'on les appelle ainsi, d'une information. Pour Xavier de Ligonnès, les journalistes de France Inter ont eu ces sources. Et cette information provenait de ces sources. Donc, emballement, oui, bien sûr, nous y avons participé, pourquoi le cacher ? Mais dès le lendemain, et c'était intéressant dans le petit montage que vous avez passé, dès le lendemain matin, on met très vite justement ce point d'interrogation. On met très vite ce conditionnel, bien avant, peu avant 13h d'ailleurs, que l'information soit certifiée. Non, ce n'est pas Xavier Dupont de Ligonnès. Donc, les journalistes de France Inter, après avoir fait leur travail, immédiatement, ont été alertés par un certain nombre de choses. Donc, emballement, oui, dans un premier temps. Vraiment, réflexion très rapidement ensuite. Et que faire devant des sources qui, à plusieurs reprises, vous certifient que c'est la bonne information ? C'est pour ça que je vous dis qu'il sera difficile d'assurer à nos auditeurs que ça ne se repassera plus jamais.
Après la provocation d'un élu Rassemblement National au Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté, qui voulait faire sortir une femme voilée qui accompagnait des élèves, le sujet divise jusqu'au sein du gouvernement et de la majorité. Le Conseil français du culte musulman dénonce une rhétorique d'extrême droite outrageusement banalisée et des réactions hystériques sur le sujet.
Après l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, dernièrement, le sujet de débat au sein des rédactions a incontestablement été le voile. Comment en parler? Quels angles choisir? Comment trouver le juste équilibre? Si certains journalistes regrettent une surexposition médiatique, les auditeurs qui nous écrivent estiment, eux, que le sujet n'est pas assez traité, notamment sur l'antenne de France Inter. Et lorsqu'il l'est, la sémantique employée ou les angles de reportage choisis ne reflètent pas leur avis sur la question. Le sujet semble tellement appartenir au camp de l'extrême droite que ses auditeurs jugent nécessaire de nous préciser qu'ils sont de gauche et considèrent, je cite, que les journalistes sont aveuglés par leur bien-pensance et qu'ils favorisent le Rassemblement national en évacuant cette question. Que vous inspire ces réflexions, Catherine Neil ?
Que c'est un sujet extrêmement, extrêmement complexe à traiter. Parce que pour l'extrême majorité, je pense, de nos concitoyens, ça n'est pas binaire. Peut-être pour les extrêmes, ça l'est, mais sans doute pas pour l'extrême majorité. Donc nous devons revenir, comme toujours, à un traitement professionnel. Entendre ceux qui défendent une laïcité non ouverte, entendre ceux qui alertent sur une possible stigmatisation, entendre tous les acteurs de ce débat. Et c'est ce que nous avons fait. Après, on peut estimer que c'est surtraité, sous-traité. La faute professionnelle aurait été de ne pas en parler. La faute professionnelle aurait été de considérer qu'il fallait de nous-mêmes le sous-traiter. Moi, je pense que on doit parler des choses. Et c'est là aussi, je reviens à notre mission de radio de service public, c'est notre mission de parler de manière proportionnée des choses qui parfois sont sensibles et qui fâchent.
Nicolas Demorand, on a beaucoup évoqué au cours de cette émission les auditeurs. Quel auditeur êtes-vous ?
Infidèle. Totalement.
C'est-à-dire ?
Butineur. J'essaye d'écouter le maximum de choses possibles. Infidèle, butineur et vieux aussi, parce que je suis encore attaché au poste de radio. J'ai pas encore épousé la totalité de la liberté que
nous offre le numérique.
Voilà. J'écoute des podcasts, évidemment, des émissions que j'ai ratées, mais je reste quand même très accroché à la radio linéaire en direct.
Et vous, Catherine Neil ?
Alors moi, je suis plutôt une fidèle. D'abord parce que c'est mon antenne, donc il faut que je l'écoute. Il faut que je repère ce qui va bien, ce qui va moins bien. Ça fait partie de mon travail. Et puis, comment vous dire ? J'avoue, je l'aime, quoi, cette antenne. Je trouve justement que tout ne me va pas. Je ne me reconnais pas dans tout. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de rigueur, d'impertinence, de folie parfois. Et elle me plaît bien. Elle m'ouvre l'esprit, en fait, cette antenne.
Et c'est ça important de ne pas s'y reconnaître. Ça stimule.
Ah, mais bien sûr, évidemment.
Catherine Nel, Nicolas.
Et on l'a fait pas que pour nous. Vous voyez ce que je veux dire? On l'a fait quand même pour les auditeurs. Donc ce qui est important, c'est eux, ce qu'ils peuvent en penser.
Nicolas Demorand, Catherine Nel, merci d'être venu répondre aux remarques de vos auditeurs, toujours nombreux à vous écrire. C'est la fin du rendez-vous de la médiatrice. À la préparation de cette émission, Catherine Cadic et Juliette Fayollet. À la réalisation, Anne-Cécile Perrin. Et à la technique, Loïc Frapsos. Si vous souhaitez faire une remarque sur une émission, poser une question sur la ligne éditoriale de France Inter, n'hésitez pas, vous qui nous écoutez, à m'écrire. Je vous invite également à consulter le site médiatrice de Radio France. On peut y lire ce que les auditeurs pensent des antennes et en particulier de France Inter. Et vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, Twitter et Facebook. Après le flash de 10h, vous retrouvez Julia Foyce et ses invités.